Nicolas Boileau, Satire 10, Les femmes. Enfin, bordant le cours de tes galanteries, Alcippe, il est donc vrai, dans Petite Marie. Sur l'argent, c'est tout dire, on est déjà d'accord. Ton beau-père futur, de son coffre-fort, et déjà le notaire a un style énergique, griffonné de ton joug l'instrument authentique. C'est bien fait, il est temps de fixer tes désirs, ainsi que ses chagrins, l'hymen à ses plaisirs. Quelle joie, en effet, quelle douleur douceur extrême de se voir caresser d'une épouse qu'on aime, de s'entendre appeler « petit cœur » ou « mon bon », de voir autour de soi, croître dans sa maison, sous les paisibles lois d'une agréable mère, de petits citoyens dont on croit être père. Quel charme, au moindre mal qui nous vient menacer, de l'avoir aussitôt à courir, s'empresser, s'effrayer d'un péril qui n'a point d'apparence, et souvent de douleur, se pâmer par avance. Car tu ne seras point de ces jaloux affreux, habiles à se rendre inquiets, malheureux, qui, tandis qu'une épouse à tes yeux se désole, pense toujours qu'un autre en secret la console. Mais quoi, je vois déjà que ce discours t'aigrit. Charmé de Juvénal et plein de son esprit, venez-vous, diras-tu, dans une pièce outrée, comme lui nous chanter que dès le temps de Ré, la chasteté déjà, la rougeur sur le front, avait chez les humains reçu plus d'un affront, qu'on vit avec le fer naître les injustices, l'impiété, l'orgueil et tous les autres vices, mais que la bonne foi, dans l'amour conjugal, n'allait point jusqu'au temps du troisième métal. Ces mots ont dans sa bouche une emphase admirable, mais je vous dirai, moi, sans alléger la fable, que si sous Adam même, et loin avant Noé, le vice audacieux des hommes avoués à la triste innocence en tout lieu filguère, il demeura pourtant d'honneur sur la terre, qu'autant les plus féconds en frinés, en laïs, plus d'une Pénélope honora son pays, et que même aujourd'hui, sur ce fameux modèle, on peut trouver encore quelques femmes fidèles. Sans doute, et dans Paris, si je sais bien compter, il en est jusqu'à trois que je pourrais citer. Ton épouse dans peu sera la quatrième. Je veux croire ainsi, mais la chasteté même, sous ce beau nom d'épouse, entra-t-elle chez toi, le retour d'un voyage, en arrivant, crois-moi, fais toujours du logis, avertir la maîtresse. Telle partie tout baignée des pleurs de sa Lucrèce, que faute d'avoir pris ce choix judicieux, trouva, tu sais. Oh oui, je sais que d'un conte odieux, vous avez comme moi sali votre mémoire. Mais laissons-la, dis-tu, je connais son histoire, du projet d'un hymen déjà fort avancé. Devant nous, aujourd'hui, criminel dénoncé, et mis sur la sellette au pied de la critique, je vois bien à tout de bon qu'il faut que je m'explique. Jeune autrefois, par vous dans ce monde conduit, j'ai trop bien profité pour n'être pas instruit à quel discours malin le mariage expose. Je sais que c'est un texte où chacun fait sa glose. Que de maris trompés, tout dans l'univers, épigrammes, chansons, rondeaux, fables en vers, satires, comédies. Et sur cette matière, j'ai vu tout ce qu'on vu, La Fontaine et Molière. J'ai lu tout ce qu'on dit, Villon et Saint-Gelais, Arioste, Marot, Boccace, Rabelais, et tous ces vieux recueils de satires naïves, des malices du sexe immortelles archives. Mais, tout bien balancé, j'ai pourtant reconnu que de ces contes vains, le monde retenu n'en a pas de l'hymen, moins fut fleurir l'usage, et que sous ce joug moqué, tout à la fin s'engage qu'à ce commun filet, les railleurs même pris ont été très souvent de commodes maris, et que, pour être heureux sous ce joug salutaire, tout dépend d'un mot du bon choix qu'on sait faire. Enfin, il faut ici parler de bonne foi. Je viens ne puis regarder sans effroi ces neveux affamés dont l'important visage de mon bien à mes yeux fait déjà le partage. Je crois déjà les voir au moment annoncé qu'à la fin sans retour leur cher oncle est passé sur quelques pleurs forcés qu'ils auront soin qu'on voit se faire reconsoler du sujet de leur joie. Je me fais un plaisir, à ne vous rien celer, de pouvoir, moi vivant, d'un peu les désoler, et trompant un espoir pour eux plein de charme, arracher de leurs yeux de véritables larmes. Vous dirais-je encore plus, soit faiblesse ou raison, je suis las de me voir le soir à ma maison, seul avec des valets, souvent voleurs et traîtres, et toujours à coup sûr ennemis de leur maître. Je ne me couche point qu'aussitôt dans mon lit, un souvenir fâcheux n'apporte à mon esprit ces histoires de mort lamentables, tragiques, dont Paris tous les ans peut grossir ses chroniques. Dépouillons-nous ici d'une vaine fierté. Nous naissons, nous vivons pour la société, à nous-mêmes livrés dans une solitude, notre bonheur bientôt fait notre inquiétude. Et si, durant un jour, notre premier aïeul, plus riche d'une côte, avait vécu tout seul, je doute, en sa demeure alors fortunée, s'il n'eût point prié Dieu d'abréger la journée. N'allons donc point ici réformer l'univers, ni par de vains discours et de frivoles vers, étalant au public notre misanthropie, censurer le lit le plus doux de la vie. Laissons là, croyez-moi, le monde tel qu'il est. L'hyménée est un joug, et c'est ce qui m'en plaît. L'homme, en ses passions, toujours errant sans guide, a besoin qu'on lui mette et le mordant et la bride. Son pouvoir malheureux ne sert qu'à le gêner, et pour le rendre libre, il le faut enchaîner. C'est ainsi que souvent la main de Dieu l'assiste. Ah bon, voilà parler en docte janséniste, Alcippe. Et sur ce point, si ça va m'en toucher, des marais dans Saint-Roch n'auraient pas mieux prêché. Mais il est trop insulté, quittons la raillerie. Parlons sans hyperbole et sans plaisanterie. Tu viens de mettre ici l'hymen en son beau jour. Entends donc et permets que je prêche à mon tour. L'épouse que tu prends, sans tâche en sa conduite, aux vertus m'a-t-on dit, dans Port-Royal instruite, aux lois de son devoir règle tous les désirs. Mais qui peut assurer qu'invincible au plaisir, chez toi, dans une vie ouverte à la licence, elle conservera sa première innocence. Par toi-même bientôt conduite à l'opéra, de quel air penses-tu que la sainte verra d'un spectacle enchanteur la pompe harmonieuse? Ses danses, ses héros à voix luxueuse, entendra ses discours sur l'amour seul roulant, ses doucereux renards, ses insensés rondins, sera d'eux qu'à l'amour, comme au seuil d'un lieu suprême, on doit immoler tout, jusqu'à la vertu même, qu'on ne saurait trop se laisser enflammer, qu'on a reçu du ciel un cœur que pour aimer. et tous les yeux comme un de morale lubrique, que Lully réchauffa le son de sa musique. Mais de quel mouvement dans son cœur excité sentira-t-elle alors tous ses sens agités? Je ne te réponds pas qu'au retour moins timide, digne écolière enfin d'Angélique et d'Armide, elle alla l'instant, plein de ses doux sons, avec quelques médors pratiquer ses leçons. Supposons toutefois qu'encore fidèle et pure, sa vertu de ce choc raison revienne sans blessure. Bientôt, dans ce grand monde où tu vas l'entraîner, au milieu des écueils qui vont l'environner, crois-tu que, toujours ferme au bord du précipice, elle pourra marcher sans que le pied lui glisse, que, toujours insensible aux discours enchanteurs, d'un idolâtre amas de jeunes séducteurs, sa sagesse jamais ne deviendra folie? D'abord, tu la verras, ainsi que dans Clélie, recevant ses amants sous le doux nom d'amis, sans tenir avec eux aux petits soins permis. Puis bientôt, en grande eau, sur le fleuve de Tendre, naviguer à souhait, tout dire et tout entendre. Et ne présume pas que Vénus ou Satan souffre qu'elle en demeure au terme du roman. Dans le crime, il suffit qu'une fois on débute, une chute toujours attire une autre chute. L'honneur est comme une île escarpée sans bord. On ne peut plus rentrer dès qu'on en est dehors. Peut-être avant 2 ans, ardente à te déplaire, éprise d'un cadet, ivre d'un mousquetaire, nous la verrons hanter les plus honteux brelants. Donnez chez la cornue rendez-vous aux galants, de Phèdre dédaignant la pudeur enfantine, suivre à front découvert Zède et Messaline, compter pour grands exploits 20 hommes ruinés, blessé, battu pour elle, et 4 assassinés. Trop heureux, si, toujours femme des honneurs ordonnés, sans mesure et sans règle, au vice abandonné, par cent traits de prudence aisée à ramasser, elle t'acquiert au moins un droit pour la chasser. Mais que deviendras-tu si, folle en son caprice, n'aimant que le scandale et l'éclat dans le vice, bien moins pour son plaisir que pour t'inquiéter, au fond peu vicieuse, elle aime à coqueter. Entre nous, verras-tu d'un esprit bien tranquille, chez ta femme abordée et la cour et la ville? Hormis-toi, tout chez toi rencontre un doux accueil. L'un est payé d'un mot et l'autre d'un coup d'œil. Ce n'est que pour toi seul qu'elle est fière et chagrine. Aux autres, elle est douce, agréable, badine. C'est pour eux qu'elle étale et l'or et le brocart, que chez toi se prodigue et le rouge et le phare, et qu'une main savante, avec tant d'artifice, bâtit de ses cheveux le galant édifice. Dans sa chambre, crois-moi, n'entre point tout le jour, si tu veux posséder ta Lucrèce à ton tour. Attends, discret mari, que la belle encore nette le soir ait étalé son teint sur sa toilette, et dans 4 mouchoirs de sa beauté salie, envoie au blanchisseur ses roses et ses lis. Alors tu peux entrer, mais sage en sa présence, ne va pas murmurer de sa folle dépense. D'abord l'argent en main paye, et vite, et content. Mais non, fais mine un peu d'en être mécontent. Pour l'avoir aussitôt, de douleur oppressée, déplorer sa vertu si mal récompensée. Un mari ne veut pas tourner fournir à ses besoins. Jamais femme, après tout, a-t-elle coûté moins. À 500 louis d'or, tout au plus, chaque année, sa dépense en habits n'est-elle pas bornée? Que répondre? Je vois qu'à de juste, si juste cri, toi-même convaincu, déjà tu l'attendris. Tout prêt à la laisser, pourvu qu'elle s'apaise, dans ton coffre à plein sac, puiser tout à son aise. À quoi bon, en effet, t'alarmer de si peu? Et que serait-ce donc si le démon du jeu, versant dans son esprit sa ruineuse rage, tous les jours, mis par elle à deux doigts du naufrage, tu voyais tous tes biens au sort abandonné devenir le butin d'un pic ou d'un chargé. Le vieux charme pour toi de voir chaque journée de nobles champions ta femme environnée sur une table longue et façonnée exprès d'un tournoi de massettes ordonné les apprêts, ou si par un arrêt la grossière police d'un jeu si nécessaire interdit l'exercice, ouvrir sur cette table un champ lanquenet, ou promener 3D chaussé de son cornet. Puis, sur une autre table, avec un air plus sombre, s'en aller méditer une voix au jeu d'ombre, s'écrier sur un as mal à propos jeté, se plaindre d'un gamin qu'on n'a point écouté, ou, querellant tout bas le ciel qu'elle regarde, à la bête gémir d'un revenu sans garde. Chez elle, en ses emplois, l'aube du lendemain souvent la trouve encore les cartes à la main. Alors, pour se coucher, les quittant, non sans peine, elle plaint le malheur de la nature humaine, qui veut qu'un sommeil où tout s'ensevelit, tendeur sans jouer, se consume au lit. Toutefois, en partant, la troupe la console, et d'un prochain retour, chacun donne parole. C'est ainsi qu'une femme, en doux amusement, sait au temps qui s'envole employer les moments. C'est ainsi que, souvent, par une forcenée, une triste famille à l'hôpital traînée, voit ses biens en secret sur les murs écrits. De sa déroute illustre effrayait tout Paris. Mais que plutôt son jeu mille fois te ruine, que si la famélique et honteuse lésine, venant mal à propos la saisir au collet, elle te réduisait à vivre sans valet. Comme ce magistrat de hideuse mémoire, dont je veux bien ici te crayonner l'histoire. Dans la robe, on vantait son illustre raison. Il était plein d'esprit, de sens et de raison. Seulement pour l'argent, un peu trop de faiblesse de ses vertus en lui ravalait la noblesse. Sa table, toutefois, sans superfluité, n'avait rien que d'honnête en sa frugalité. Chez lui, deux bons chevaux, de pareille encolure, trouvaient dans l'écurie une pleine pâture. Et du foin que leur bouche au râtelier laissait, de surcroît une mule encore se nourrissait. Mais cette soif de l'or qui le brûlait dans l'âme le fit enfin songer à choisir une femme. Et l'honneur dans ce choix ne fut point regardé. Vers son triste penchant, son naturel guidé, le fit dans une avare et sordide famille chercher un monstre affreux sous l'habit d'une fille. Et sans trop s'enquérir d'où la laine venait, il sut, ce fut assez, l'argent qu'on lui donnait. Rien ne le rebuta, ni sa vue écraillée, ni sa masse de chair bizarrement taillée, et 300 000 francs avec elle obtenus. La firent à ses yeux plus belle que Vénus. Il l'épouse. Et bientôt, son hôtesse nouvelle, le prêchant lui fit voir qu'il était auprès d'elle, lui, un vrai dissipateur, imparfait, débauché. Lui-même le sentit, reconnut son péché, se confessa, prodigue, et plein de repentance, offrit sur ses avis de régler sa dépense. Et aussitôt de chez eux, tout rôti disparut, le pain bis renfermé d'une moitié décru, les deux chevaux, la mule, au marché s'envolèrent, deux grands laquais à jeun, sur le soir s'en allèrent. De ces coquins déjà l'on se trouvait lassé, et pour n'en plus revoir, le reste fut chassé. Deux servantes déjà largement souffletées avaient à coups de pied descendu les montées. Et se voyant enfin hors de ce triste lieu, dans la rue on avait rendu grâce à Dieu. Un vieux valet restait, seul chéri de son maître, que toujours il servit et qu'il avait vu naître, et que de quelques sommes amassées en lieu temps, vivait encore chez eux, parti à ses dépens, et sa vue l'embarrassait, il fallut s'en défaire. Il fut de la maison chassé comme un corsaire. Et voilà nos deux époux, sans valet, sans enfant, tout seuls dans leur logis, libres et triomphants. Alors on ne mit plus de borne à la lésine, on condamna la cave, on ferma la cuisine, pour ne s'en point servir au plus rigoureux mois. Dans le fond d'un grenier, on séquestra le bois. L'un et l'autre, dès lors, vécut à l'aventure. Des présents qu'à l'abri de la magistrature, le mari quelquefois des plaideurs extorquait, ou de ce que la femme au voisin excroquait. Mais pour bien mettre ici leur crasse en son illustre, il faut voir au logis sortir ce couple illustre. Il faut voir le mari tout poudreux, tout souillé, couvert d'un vieux chapeau de cordon dépouillé, et de sa robe en vain de pièces rajeunies, à pied dans les ruisseaux, traînant l'ignominie. Mais qui pourrait compter le nombre de haillons, de pièces, de lambeaux, de sales godillons, de chiffons ramassés dans la plus noire ordure, dont la femme au bonjour composait sa parure? Écrirais-je ses bas en 30 endroits percés, ses souliers grimaçants, 20 fois repatassés, ses coiffes d'où pendait au bout d'une ficelle un vieux masque pelé presque aussi hideux qu'elle? Peindrais-je son jupon bigarré de latin, qu'ensemble composaient 3 thèses de satin, présent qu'en un procès sur certains privilèges firent à son mari les gens de régent d'un collège, et qui, sur cette jupe à main rien encore, derrière elle faisait lire argumentabor. Mais peut-être j'invente une table frivole, demandons tout Paris, qui prenant la parole sur ce sujet encore, de bons témoins pourvus, ton prêt à le prouver, te dira, je l'ai vu, 20 ans j'ai vu ce couple, uni en un même vice, à tous mes habitants montrer que l'avarice peut faire dans les biens trouver la pauvreté et nous réduire à pas à pisse que la mendicité des voleurs qui chez eux plein d'espérance entrèrent de cette triste vie enfin les délivrèrent. digne et funeste fruit du nœud le plus affreux, dont l'hymen n'a jamais uni deux malheureux. Oui, ce récit passe un peu l'ordinaire nature, mais un exemple en saint si digne de censure peut-il dans la satire occuper moins de mots? Chacun sait son métier. Bon, suivons notre propos. Nouveau prédicateur aujourd'hui, je l'avoue, écolier ou plutôt singe de Bourdaloue, je me plais à remplir mes sermons de portraits. En voilà déjà trois peints d'assaisonnés effets. La femme sans honneur, la coquette et l'avare. Il faut y joindre encore la revêche bizarre, qui sans cesse d'un ton par la colère aigrie, gronde, choque, dément, contredit un mari. Il n'est point de repos ni de paix avec elle. Son mariage n'est qu'une longue querelle. Laisse-t-elle un moment respirer son époux? Ses valets sont d'abord l'objet de son courroux. Et sur le ton grondeur, lorsqu'elle les harangue, il faut voir de quels mots elle enrichit la langue. Ma plume ici, traçant ces mots par alphabet, pourrait d'un nouveau tome augmenter Richelet. Oh, tu crains peu d'essuyer cette étrange furie. En trop bon lieu, dis-tu, ton épouse nourrie, jamais de tel discours ne se verra martyr. Mais eût-elle sucé la raison dans Saint-Cyr, crois-tu que d'une fille humble, honnête, charmante, l'hymen n'ait jamais fait de femme extravagante? Combien n'a-t-on point vu de belles ou nouveaux, avant le mariage, en jeu si gracieux, tout à coup se changeant en bourgeoise sauvage, vrais démons à porter l'enfer dans leur ménage, et découvrant l'orgueil de leurs rudes esprits, sous leur fontange altière a servi leur mari. Et puis, quelque douceur dont brille ton épouse, penses-tu, si jamais elle devient jalouse, que son âme livrée à ses tristes soupçons, de la raison encore écoute les leçons? Alors, Alcibe, alors, tu verras de ses œuvres. Résous-toi, pauvre époux, à vivre de couleuvres, à la voir tous les jours, dans ses fougueux accès, à ton geste, à ton rire, à tenter un procès. Souvent de la maison, gardant les avenues, les cheveux hérissés, t'attendra au coin des rues. Te trouver en des lieux de 20 portes fermées, et partout où tu vas, dans ses yeux enflammés, t'offrir non pas d'Isis, la tranquille Ménide, mais la vraie Alceto, peinte dans l'Énéide, un tiseau à la main, chez le roi Latinus, soufflant sa rage au sein d'Amate et de Trinus. Mais quoi, je chasse ici le couture de tragique, reprenons au plus tôt le brodequin comique, et d'objets moins affreux, songeons à se peu parler. Dis-moi donc, laissant là cette folle hurler, t'accommodes-tu mieux de ces douces myriades qui, dans leur vain chagrin, sans mal toujours malades, se font des mois entiers sur un lit effronté, tracé, traité d'une visible et parfaite santé, et 12 fois par jour, dans leur molle indolence aux yeux de leur mari, tombent en défaillance. Quel sujet, dira l'un, peut donc si fréquemment mettre ainsi cette contrelle au bord du monument? La parque, ravissant ou son fils ou sa fille, a-t-elle moissonné l'espoir de sa famille? Non! Il est question de réduire un mari à chasser un valet dans la mémoire chérie, et qui, parce qu'il plaît, a trop su lui déplaire, ou de rompre un voyage utile et nécessaire, mais qui la priverait 8 jours de ses plaisirs, et qui, loin d'un galant objet de ses désirs, oh, que pour la punir de cette comédie, ne vois-je une vraie et triste maladie? Mais nous ne nous fâchons point. Peut-être avant 2 jours, Courtois de Desrio mentait à son secours, digne ouvrage de l'art dont Hippocrate traite, lui seront bien notés cette santé d'athlète, pour consumer l'humeur qui fait son embonpoint, lui donner sagement le mal qu'elle n'a point. Et fuyant de Phagon les maximes énormes, au tombeau mérité la mettre dans les formes. Dieu veuille avoir son âme et nous délivrer d'eux. Pour moi, grand ennemi de leur art hasardeux, je ne puis cette fois que je ne les excuse. Mais à quel vain discours est-ce que je m'amuse? Il faut sur ces sujets plus grands, plus curieux, attacher de ce pas ton esprit et tes yeux. Qui s'offrira d'abord? Bon, c'est cette savante qu'estime Robert Val et que Sauveur fréquente. D'où vient qu'elle a l'œil trouble et le teint si terni? Ah, c'est que sur calcul, dit-on de Cassini, un astrolabe en main est là dans sa gouttière à suivre Jupiter passer la nuit entière. Gardons de la troubler. Sa science, je crois, aura pour s'occuper ce jour plus d'un emploi. D'un nouveau microscope, on doit en sa présence tantôt chez Devancé faire l'expérience. Puis d'une femme morte avec son embryon. Il faut chez Duvernay voir la dissection. Rien n'échappe au regard de cette curieuse. Mais qui vient sur ses pas? Ah, oh, c'est une précieuse! Reste de ces esprits jadis si renommés que d'un coup de son art Molière a diffamé. De tous leurs sentiments, cette noble héritière maintient encore leur secte si façonnière. C'est chez elle toujours que les fades auteurs s'en vont se consoler du mépris des lecteurs. Elle y reçoit leurs plaintes et sa docte demeure, au Perrin, au Coras, est ouverte à toute heure. Là, du faux bel esprit se tiennent les bureaux. Là, tous les vers sont bons, pourvu qu'ils soient nouveaux. Au mauvais goût public, la belle y fait la guerre. Plein pradon, opprimé des sifflets du parterre, rit des vains amateurs du grec et du latin, dans la balance met d'Aristote et Cotin. Puis d'une main encore plus fière et plus habile, pèse sans passion Chapelain et Virgile, remarque en ce dernier beaucoup de pauvreté. Mais pourtant, connaissant qu'il a quelque beauté, ne trouvant Chapelain, quoi qu'en dit la satire, autre défaut, sinon qu'on ne le saurait lire. Et pour faire goûter son livre à l'univers, croit qu'il faudrait en prose y mettre tous les vers. À quoi bon étaler cette bizarre en école de nouveaux sens, dis-tu, prêchés par une folle? Des livres écrits bourgeois admirateurs, vais-je épouser ici quelque apprenti auteur? Savez-vous que l'épouse avec qui je me mets lit, compte entre ses parents des princes d'Italie, son aïeux, dont les noms... Oh, je l'entends, et je vois d'où vient que tu t'es fait secrétaire du roi. Il fallait de ce titre appuyer ta naissance. Cependant... T'avouerai-je ici mon insolence? De quelque objet pareil chez moi te saler bon? Pour m'épouser en droit, en traite avec tous ces grands noms. Le sourcil rehaussé d'orgueilleuse chimère, je lui dirai bientôt: je connais tous vos pères, je sais qu'ils ont brillé dans ce fameux combat où sous un de Valois Enghien sauva l'État. D'Ozier n'en convient pas, mais quoi qu'il en puisse être, je ne suis point si sot que d'épouser mon maître. Ainsi donc, ou plutôt dégageant de ces lieux, « Allez, princesse, allez, avec tous vos aïeux, sur le pompeux débris des lances espagnoles, couchez, si vous voulez, au champ de Cérisol. Ma maison ni mon lit ne sont point faits pour vous. J'admire, poursuis-tu, votre noble courroux. Souvenez-vous pourtant que ma famille illustre de l'assistance au sceau ne tire point son lustre, et que, né dans Paris de magistrats connus, je ne suis point ici de ces nouveaux venus, de ces nobles sans nom, que pas plus d'une voix la province souvent en guêtre nous envoie. Mais eussé-je comme eux des meuniers pour parents, mon épouse vint-elle encore d'aïeux plus grands, on ne la verrait point, vantant son origine, à son triste mari reprocher la famine. Son cœur, toujours nourri dans la dévotion, de trop bonheur a pris l'illumination. Et pour vous détromper de pensées étranges, que l'humain la poursuit aujourd'hui, la corrompt et la change, sachez qu'en notre accord, elle a pour premier point exigé qu'un époux ne la contraindrait point à traîner après elle un pompeux équipage, ni tout de souffrir pour un profane usage qu'à l'église jamais devant Dieu jaloux, un fastueux carreau soit vu sous ses genoux. Telle est l'humble vertu qui dans son âme empreinte, je le vois bien, tu vas épouser une sainte, et dans tout ce grand zèle, il n'est rien d'affecté. Sais-tu bien cependant, sous cette humilité, l'orgueil que quelquefois nous cache une bigote, Alcippe, et connais-tu ta nation dévote? Il te faut de ce pas entraider, tracer quelques traits, et par ce grand portrait, finir tous mes portraits. À Paris, à la cour, on trouve, je l'avoue, des femmes dont le zèle est digne qu'on le loue, qui s'occupent du bien en tout temps, en tout lieu. J'en sais une, chérie et du monde et de Dieu, humble dans ses grandeurs, sage dans la fortune, qui gémit comme Esther de sa gloire importune, que le vice lui-même est contraint d'estimer, et que sur ce tableau, d'abord tu vas nommer. Mais pour quelque vertu si pure, si sincère, combien y trouve-t-on d'impudentes faussaires qui, sous un vain devoir d'austère piété, de leurs crimes secrets cherchent l'impunité et couvrent de Dieu même, empreint sur leur visage, de leur honte plaisir, la faux libertinage. N'attends pas qu'à tes yeux jaillisse y étaler. Il vaut mieux le souffrir que de le dévoiler. De leurs galants exploits, les Bussy, les fantômes pourraient avec plaisir te compiler des tomes. Mais pour moi, dont le front trop aisément rougit, ma bouche a déjà peur de t'en avoir trop dit. Rien n'égale en fureur, en monstrueux caprice, une fausse vertu qui s'abandonne au vice. De ces femmes pourtant, l'hypocrite noirceur, au moins pour un mal garde quelque douceur, je les aime encore mieux qu'une bigote altière qui, dans son fol orgueil aveugle et sans lumière, à peine sur le seuil de la dévotion, pense atteindre au sommet de la perfection, qui, du soin que le prend de ne gêner sans cesse, va quatre fois par mois se vanter à confesse, et les yeux vers le ciel, pour se faire ouvrir, offre à Dieu les tourments qu'elle m'a fait souffrir. Sur 100 pieux de voir, au sein elle est égale, elle le lit Rodriguez, fait l'oraison mentale, va pour les malheureux quêter dans les maisons, hante les hôpitaux, visite les prisons. Tous les jours à l'église, entend jusqu'à 6 messes. Mais de combattre en elle et compter ses faiblesses, sur le tard, sur le jeu vaincre sa passion, mettre un frein à son luxe, à son ambition, et soumettre l'orgueil de son esprit rebelle, c'est ce qu'en vain le ciel voudrait exiger d'elle. Et peut-il, dira-t-elle, en effet l'exiger? Elle a un directeur, c'est à lui d'en juger. Il fait, faut s'en différer, savoir ce qu'il en pense. Bon, vers nous à propos, je le vois qui s'avance, qui paraît bien nourri. Quel vermillon, quel teint! Le printemps dans sa fleur, sur son visage est peint. Cependant, à l'entendre, il se soutient à peine. Il est encore hier la fièvre et la migraine. Mais de tous les mortels, grâce aux dévotes âmes, nul n'est si bien soigné qu'un directeur de femme. Quelque léger dégoût vient-il le travailler? Une faible vapeur le fit-elle bâiller? Un escadron, coiffé d'abord, court à son aide. L'une chante un chauffe un bouillon, l'autre apporte un remède. Chez lui, sirop exquis, ratafia vantée, confiture surtout, vol de tous côtés. Car de tout mets sucré, sec, en pâte ou liquide, les estomacs dévots toujours furent avides. Le premier masse-pain pour eux, je crois, se fit, et le premier citron à Rouen fut confit. Notre docteur bientôt va laver tous ses doutes. Du paradis, pour elle, il a plani les routes. Et loin, sur ses défauts de la mortifier, lui-même prend le soin de la justifier. Pourquoi vous alarmez d'une faible censure? Du rouge qu'on vous voit, on s'étonne, on murmure. Mais a-t-on, dira-t-il, sujet de s'étonner? Et ce qu'à faire peur, on est tous condamnés. Aux usages reçus, il faut qu'on s'accommode. Une femme, surtout, doit tribut à la mode. L'orgueil brille, dit-on, sur vos pompeux habits. L'œil à peine soutient l'éclat de vos rubis. Dieu veut-il qu'on étale un luxe si profane? Oui, lorsque l'étalé, notre rang nous condamne. Mais ce grand jeu chez vous, comment l'autoriser? Le jeu fut de tout temps permis pour s'abuser. On ne peut pas toujours travailler, prier, lire. Il vaut mieux s'occuper à jouer qu'à médire. Le plus grand jeu, joué dans cette intention, peut même devenir une bonne action. Tout est sacrifié par une âme pieuse. Vous êtes, poursuit-on, avide, ambitieuse. Sans cesse vous brûlez de voir tous vos parents engloutir à la cour, aux charges, dignité, rang. Votre bon naturel, en cela, pour eux brille. Dieu ne vous défend point d'aimer votre famille. D'ailleurs, tous vos parents sont âgés, vertueux, sages. Il est bon d'empêcher ces emplois fastueux d'être donnés peut-être à des âmes mondaines, éprises du néant des vanités humaines. Laissez-la, croyez-moi, gronder les indévots, et sur votre salut demeurez en repos. Sur tous ces points de doute, tout est ainsi qu'il prononce. Alors, croyant d'un ange entendre la réponse, sa dévote s'incline et, calmant son esprit, à cet ordre d'en haut, sans réplique, souscrit. Ainsi, pleine d'erreurs qu'elle croit légitimes, sa tranquille vertu conserve tous les crimes. Dans un cœur tous les jours nourri du sacrement, maintenant la vanité, l'orgueil, l'entêtement, et croit que devant Dieu, ces fréquents sacrilèges sont pour entrer au ciel d'austères privilèges. Voilà le digne fruit des soins de son docteur. Encore est-il beaucoup si ce guide imposteur, par les chemins fleuris d'un charmant quiétisme, tout à coup l'amenant au vrai Molininos, il ne lui fait que bientôt aider de Lucifer, goûter en paradis les plaisirs de l'enfer. Mais dans ce doux état, molle, délicieuse, la es-tu plus, dis-moi, que cette bilieuse, qui tellement outrée en sa dévérité, baptisant son chagrin du nom de piété, dans la charité fausse ou l'amour, propre amour, croit que c'est aimer Dieu, que haïr tout le monde. Il n'en est rien, ou d'abord son soupçon attaché le présume du crime et le trouve en péché. Pour une fille honnête et pleine d'innocence, croit-elle en ses valets, voire quelque complaisance? Réputée criminelle, les voilà tous chassés, et chez elle à l'instant par d'autres remplacés. Son mari, qu'une affaire appelle dans la ville, et qui chez lui, sortant, a tout laissé tranquille, se trouve assez surpris, rentrant dans la maison, de ce que le portier lui demande son nom, et que, parmi les gens chargés en son absence, il cherche vainement quelqu'un de connaissance. Or bien, le très bon, dans les femmes, dis-tu, enfin vous n'approuvez ni vice ni vertu. Voilà le sexe peint d'une noble manière, et tu en phrase de même, aidé de la bruyère, ça ne pourrait pas d'être un plus riche tableau. Bon, c'est assez, il est temps de quitter le pinceau. Vous avez désormais épuisé la satire. Épuisé, cher Alcippe. Ah, tu me feras rire. Sur ce vaste sujet, si j'allais tout tracer, tu verrais sous ma main des tomes s'amasser. Dans le sexe, j'ai peint la piété caustique. Et que serait donc, si censeur plus tragique, j'allais t'y faire voir l'athéisme établi, et non moins que l'honneur, le ciel mis en oubli. Si j'allais t'y montrer plus de carbanée, pour souveraine loi mettant la destinée, du tonnerre dans l'air bravant les vingt carreaux, et nous parlant de Dieu du ton de Désépro. Mais sans aller chercher cette femme infernale, t'ai-je encore peint, dis-moi, la fantasque inégale, ou qui, n'aimant le matin, souvent me hait le soir? T'ai-je peint la maligne aux yeux faux, au cœur noir? T'ai-je encore exprimé la brusque impertinente? T'ai-je tracé la vieille à morgue dominante, qui veut, 20 ans après ce sacrement, exiger d'un mari les respects d'un amant? T'ai-je fait voir de joie une belle animée, qui souvent d'un repas sortant tout enfumé, fait même à ses amis, trop faible d'estomac, redouter ses baisers, pleins d'ail et de tabac? T'ai-je encore décrit la dame Brolandière, qui de joueur chez soi se fait comme manière, et souffre des affronts que ne souffriront pas l'hôtesse d'une auberge à 10 sous par repas? Ai-je offert à tes yeux ces tristes trispones, ces monstres pleins d'un fiel qui n'ont point de lionne, et qui pendant un dégoût les fruits nés de leurs flancs s'irritent sans raison contre leur propre sang? Toujours dans des fureurs que les plaintes aigrissent, battent dans leurs enfants l'époux qu'elles haïssent, et font de leur maison, digne de Pharis, un séjour de douleur, de larmes et de crise. Enfin, t'ai-je dépeint la superstitieuse, la pédante ou formée au ton fier, la bourgeoise ennuyeuse, celle qui de son chat fait son seul entretien, celle qui toujours parle et ne dit jamais rien. Il en est des milliers, mais ma bouche, enfin lasse de ces trois quarts pour moi, peut bien la faire grâce. J'entends, c'est pousser loin la modération. Ah, finissez, dis-tu, la déclaration. Pensez-vous qu'ébloui de vos vaines paroles, j'ignore qu'en effet, tous ces discours frivoles ne sont qu'un badinage, un simple jeu d'esprit, d'un censeur dans le fond qui folâtre et qui rit, plein du même projet que vous vint dans la tête, que vous plaçâtes l'homme au-dessus de la bête. Mais enfin, vous et moi, c'est assez badiné. Il est temps de conclure. Et pour tout terminer, je ne dirai qu'un mot. La fille qui m'enchante, noble, sage, modeste, humble, honnête, touchante, n'a pas un des défauts que vous n'avez fait voir. Si par un sort pourtant qu'on ne peut concevoir, la belle tout à coup rend insociable, d'ange, ce sont vos mots, se transformaient en diable, vous me verriez bientôt, sans me désespérer, lui dire, « Eh bien, madame, il faut nous séparer. Nous ne sommes pas faits, je vois l'un pour l'autre. Mon bien se monte à temps. Tenez, voilà le vôtre. Partez. Délivrons-nous d'un mutuel souci. Alcippe, tu crois donc qu'on se sépare ainsi? Pour sortir de chez soi sur cette offre offensante, as-tu donc oublié qu'il faut qu'elle y consente? Et crois-tu qu'aisément, fille puisse quitter et savoureux plaisir de t'y persécuter? Bientôt, son procureur pourrait l'usant la plume de ses prétentions, va t'offrir un volume. Car, grâce aux droits reçus chez les Parisiens, gens de douce nature, et mari bon chrétien, dans ses prétentions, une femme est sans borne. Alcippe, à ces discours, je te trouve un peu morne. Des arbitres, dis-tu, pour nous accorder. Des arbitres. Tu crois les empêcher de plaider? Sur ton chagrin déjà, contente d'elle-même, ce n'est point tous ses droits, c'est le procès qu'elle aime. Pour elle, un bout d'arpent qu'il faudra disputer, vaut mieux qu'un fief entier, acquis sans contester. Avec elle, il n'est point de droit qui s'éclaircisse, point de procès si vieux, il ne se rajeunisse. Et si l'art de former un nouvel embarras devant elle, on émettrait pavillon bas, crois-moi, pour la fléchir, trouve enfin quelque voie où je ne réponds pas dans peu, qu'on ne te voit sous le fait de procès abattu, consterné, triste, à pied, sans laquais, maigre, sec, ruiné, 20 fois dans ton malheur résolu de te prendre, et pour comble de mots, réduire à la reprendre.